Aujourd'hui, Totemix se passe au Théâtre des Bouffes Parisiens avec Léa Drucker. Elle y jouera tous les soirs à partir du 24 septembre. Passez par l'entrée des artistes, traversez le petit salon et paumez-vous dans le dédale d'escalier avec une tasse de café à la main.
On arrive là comme dans un donjon en fait.
Un peu, hein, c'est un peu biscornu.
Biscornu, plafond bas, couloir étroit.
Ouais, on est un peu comme dans la tête de quelqu'un.
Et voilà.
On est bien là.
Nous sommes dans sa loge et elle a préparé ses textes. Celui qu'elle lira pour sa carte blanche dans Totemix et celui qu'elle répète en ce moment. Une pièce de Claude Simon qui s'intitule « La séparation » où elle joue la belle-fille de Catherine Yégel, le tout mis en scène par Alain Françon. Dans 10 jours, Léa Drucker sera aussi à l'affiche de « L'intérêt d'Adam », très bon film de Laura Vandel, où elle joue une infirmière en chef dans un service pédiatrique. Et puis à l'automne, vous la verrez aussi enquêter sur une bavure policière dans un long-métrage de Dominique Moll. Voilà pour l'actu. La durée et les hasards de la conversation qui suit ont permis de revenir sur d'autres moments de son parcours, les rôles qui ont compté, les expériences moins bonnes aussi, les avantages et les inconvénients de ce nom, Drucker. Et puis, comme d'habitude dans Totemix, l'invité choisit d'écouter un tube que vous entendrez vers la fin de l'émission et aussi la voix de quelqu'un. Là, vous vous dites, on va écouter New York, New York par Frank Sinatra. Non, raté. Selon moi, on va écouter mieux que ça. New York, New York, oui, mais par Liza Minnelli. Quand elle interprète cette chanson sur scène, à la fin du film de Martin Scorsese, qui s'intitule New York, New York aussi, blues, rouge vif et talons hauts, c'est la voix de Liza Minnelli que Léa Drucker a choisie.
Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York.
Donc c'est la scène finale de New York, New York de Scorsese. Et c'est cette grande Liza, Liza Minnelli, qui me fait dresser les cheveux sur la tête et pleurer à chaque fois que je l'écoute ou la vois à l'image. Parce qu'il y a une force, une énergie, une hypersensibilité et
du plaisir.
Elle est entièrement là. Et moi, j'ai vu ce film quand j'étais gamine. Et j'étais fascinée par cette femme, par ses grands yeux, par son expressivité et ce qu'un artiste était capable de faire, jusqu'où il pouvait aller. Et là, il y a le final. Moi, j'ai des larmes quand j'entends ça. Parce qu'il y a un don de soi, quoi. Et c'est ce qu'on rêve de faire quand on veut être artiste. C'est des gens qui vous transcendent, en fait. On se dit, mais ça, si c'est possible de faire ça sur... C'est incroyable de réussir à faire ça sur scène, en fait. Et comme vous dites, c'est la joie d'être sur scène et de partager ce qu'on est. Alors moi, quand j'ai vu ça gamine, je me suis dit, ah là 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 là, le spectacle, tout est possible. Et je faisais du patinage artistique, et puis quand je faisais des petits solos sur la glace, je me rêvais comme une artiste de comédie musicale, où il y avait l'idée de la performance physique.
C'est le genre de film où vous projetiez aussi sur grand écran?
Alors, il pouvait m'arriver dans ma chambre d'ado ou d'enfant de faire du playback sur ses chansons. Je me disais, bon ben... Je suis cette chanteuse-là, et c'était très, très, très exaltant.
Ça, c'est très intime, hein, comme ce que je... Mais je crois qu'on fait tous un peu des trucs comme ça, non ? Je me trompe pas ?
Tellement.
Après, ça peut être sur le rock, ça peut être sur plein de trucs. Mais Lisa Minnelli, je me disais, bon, bah, je suis cette chanteuse-là. Et c'était très, très, très exaltant.
Vous, vous avez commencé par le théâtre, oui, avant de faire du cinéma. C'était une étape logique ou vous avez rêvé de cinéma tout de suite, justement ?
Alors, je dirais que le cinéma, j'ai mis énormément de temps à... ça m'a pris énormément de temps à comprendre vraiment comment ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'autant au théâtre, j'avais des dispositions, j'avais de l'exubérance, j'avais pas peur du ridicule, j'adorais le texte, donc je comprenais un peu mieux comment ça fonctionne. La caméra qui est sur l'intime, en fait, et c'est un abandon qui m'a pris plus de temps à assumer, je dirais. Il y a un truc sur l'image aussi, sur l'image. C'est une chose d'être dans sa chambre et puis de faire le playback de Lisa Minnelli et peut, parfois de se regarder dans la glace et de trouver ça sympa. Mais c'est autre chose tout d'un coup d'avoir... Ouais, faut aussi abandonner l'idée de l'image qu'on va avoir de vous aussi. C'est accepter d'être complètement là avec ce qu'on a de beau, ce qu'on a de pas forcément beau, ce qu'on a... Même mettre ces complexes-là, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, de se mettre...
De ne pas hésiter à les exposer.
Bah, en tout cas, de ne pas trop penser à ça non plus, mais en tout cas, d'arriver à abandonner le contrôle, quoi.
Alors là, New York, New York de Scorsese, c'est un chef-d'œuvre.
Ouais.
Mais dans un parcours, il y a aussi des films qui sont moins bons, ou des films qui sont ratés, qu'on peut tourner parce qu'il faut vivre. Est-ce qu'ils sont utiles, ces films-là, dans un parcours ?
Moi, j'avais des copains ou des copines élèves au théâtre quand on était étudiants qui me disaient, moi, je ne ferai aucun compromis. Je disais, mais comment tu vas faire ? T'es rentier ? Enfin, comment tu... C'est super de vouloir travailler qu'avec Michael Haneke et... Enfin, je veux dire, moi, j'adore aussi. Je trouve que quand on est jeune acteur ou jeune actrice, si on commence à être un peu snob et à... On passe à côté de rencontres qui peuvent être intéressantes et qui vous permettent d'explorer ça. Tiens, un peu de comédie là, un peu de... C'est quand on devient un peu célèbre, on va dire, ou un peu connu, ou je sais, ou qu'on a un peu, disons qu'on a un peu plus de pouvoir, que là le choix arrive et que c'est intéressant de se poser des questions sur vers où tu veux t'orienter. Quand tu es jeune acteur ou jeune actrice, moi je trouve qu'il faut aller à fond dans tout et essayer plein de choses. Si t'as le choix, merveilleux, tant mieux, mais c'est pas gagné, quoi. Donc,
je crois que vous avez joué dans une sitcom.
Oui.
À vos tout débuts.
Absolument. Les trucs qui passaient, ça s'appelait Histoire d'amour. Histoire au pluriel. Histoire d'amour.
Une promesse.
Et c'était une production, je me souviens très bien, c'était des trucs, on répétait pendant une après-midi, on avait des scotchs par terre. Je n'ai jamais vu les réalisateurs, je crois qu'ils étaient cachés dans la régie. On entendait des gens nous parler au micro, on se faisait engueuler parce que si on avait un fou rire ou qu'on dérapait sur le texte, parce que c'était des tartines, ça pouvait durer 12 minutes de texte comme ça. Je me demande si c'est pas là où on apprend le plus, parce qu'on apprend à se débrouiller tout seul, ou on apprend à essayer de faire un truc pas trop mal, ou on apprend à essayer de trouver la joie de ça aussi. Et moi, je trouve ça très formateur. Mais j'avais vu une interview de Liv Ullmann qui disait ça sur Bergman. On lui disait, qu'est-ce que vous avez appris avec
Ingmar ?
Avec Ingmar. Elle dit, oh, bah, je crois qu'elle l'appelait le génie, ou je sais plus comment elle l'appelait. Bah, avec le génie, on apprend. J'ai rien appris. Il me dit, tourne la tête, je sais que ça va être bien. Lève, regarde là, je sais que ça va être bien. C'est plutôt avec les metteurs en scène plus fragiles que j'ai appris beaucoup.
Ouais, parce que là, il faut avoir des idées, quoi, soi-même.
Ben oui, il faut apprendre à se débrouiller tout seul pour faire le mieux possible. Je vous dis pas que les gens vont acclamer. Mais on peut essayer de s'en sortir.
Et Philippe Catherine fit son entrée dans Totemic avec Une chambre à moi.
Je voudrais une chambre à moi, mais sans angle 3. Un bouquet de mimosa, une grande table en bois. Mais rien d'autre que ça, une chaise et un lit. Et sous mes pas, du marbre d'Italie. Je voudrais une chambre à moi avec la loggia. Un piano, des feuilles, des crayons de bois. Ma guitare Yamaha est vue sur la mer. Dans un jardin plus vert qu'un ara illichère. Un ara illichère. C'est un perroquet tout vert. Aussi vert que mon jardin de
devant ma chambre, à moi.
Je voudrais une chambre à moi.
Je voudrais une chambre à moi, comme dit Virginia. Je pourrais jouer mon saxophone sans fatiguer personne. Je jouerais mon saxophone quand je joue, c'est pour personne.
Quand je joue, c'est pour personne. Quand je joue du saxophone. Quand je joue, c'est pour personne. Quand je joue du saxophone. Quand je joue, c'est pour personne.
Je voudrais une chambre à moi, mais sans angle 3. Un bouquet de mimosa, une grande table en bois. Et rien d'autre que ça, une chaise et un lit. Et sous mes pas, du marbre d'Italie. Je voudrais une chambre à moi avec la loggia, un piano, des feuilles, des crayons bois, ma guitare Yamaha et vue sur la mer, dans un jardin plus vert qu'un araïdjer.
Je voudrais une chambre à moi.
Je voudrais une chambre à moi, comme dit Virginia. Je pourrais jouer mon saxophone sans fatiguer personne. Je jouerai mon saxophone quand je joue, c'est pour personne. Quand je joue mon saxophone, c'est pour personne.
Y a quelqu'un? Oui, c'est Totemic avec Léa Drucker jusqu'à 10h.
Totemic. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Il y a 6 ans, Léa Drucker était lauréate d'un César, celui de la meilleure actrice pour Jusqu'à la garde, premier film de Xavier Legrand. J'ai choisi de lui faire écouter l'un des moments marquants de l'histoire de cette cérémonie. C'était en 1996, quand Annie Girardot monte sur scène pour recevoir le César du meilleur second rôle dans La pianiste de Michael Haneke.
Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... À moi, le cinéma français a manqué. Follement. Éperdument. Douloureusement. Et... Votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être... Je le dis bien peut-être... Je ne suis pas encore tout à fait morte.
Bon, d'abord, c'est une actrice que j'ai, pour qui j'ai une admiration profonde. Elle est dans Rocco et ses frères, où elle est exceptionnelle. Donc, elle travaille avec des gens comme Visconti. Un parcours fort, quoi. Et puis, tout d'un coup, il s'est passé des années où elle a dû ne pas faire son métier, donc ne pas être ce qu'elle est. Parce que pour quelqu'un comme Annie Girardot, jouer, je pense que c'est elle. Enfin, c'est ce qu'elle est. C'est de c'est...
Votre métier, vous, c'est ce que vous êtes?
Ah oui. Ah oui. Je pense que c'est complètement ce que je suis parce que l'endroit du jeu est un endroit de libération et de liberté totale que j'ai pas du tout dans ma vie, que je ne m'autorise pas dans ma vie. J'ai beaucoup de mal à exprimer mes émotions dans la vie quotidienne et à l'endroit du... Dès qu'on me donne une histoire à raconter ou un personnage, je dis pas que ça m'est facile, mais c'est un endroit où je me l'autorise complètement et ça me fait du bien. Donc pour une femme comme Annie Girardot qui avait cette force émotionnelle, cette sensibilité, cette... aussi, je pense que de ne pas travailler, de ne... d'être dans cet isolement-là, et de ça a dû être... Et ce qui est très beau dans ce qu'elle dit, c'est à quel point elle dit la vérité. Il n'y a pas de masque.
C'est très rare d'entendre des choses, de voir un moment comme ça et que la personne ait le courage de le partager comme ça.
Vous dites, moi, mon métier, c'est ce que je suis. Est-ce qu'à un moment, vous avez pensé y renoncer ?
Il y a eu un moment, oui, quand j'avais 28 ans, où je me suis dit, je vais renoncer parce que c'est trop c'est plus éprouvant qu'heureux. Ça ne me procure pas assez de joie, puisqu'il y a trop d'attentes, il y a trop de déceptions, il y a trop de... C'est ce fameux truc de découragement. J'avais plus la force, j'avais tenu 10 ans, de 18 à 28 ans, voilà. Pour donner un exemple, j'ai eu à passer des auditions, par exemple pour des pièces, où je travaillais pendant une semaine, 10 jours, toute une préparation de réflexion sur le personnage, sur les choses, et puis vous arrivez, puis les gens ne vous regardent même pas. Parce qu'ils ont déjà une autre idée de ce qu'ils veulent et qu'ils ont déjà choisi quelqu'un, ou je sais pas. Il y avait une sorte de dichotomie, c'est ça le bon mot, je crois, entre ce que vous avez projeté de « je vais vous montrer mon travail » et l'intérêt que les gens vont en avoir au moment important. Il a fallu comprendre que ça n'était pas que l'engagement, le cœur, l'âme et le chose, mais c'était aussi d'apprendre à encaisser des événements qui, des fois, étaient un peu médiocres, comme ça. J'étais en colère, en fait, je crois. Je me suis dit, allez, bon, tant pis, allez, on passe à autre chose, je veux passer ma vie à... Donc j'ai fait des petits boulots, je me suis fait engager j'ai travaillé à la radio, je travaillais à Radio Nova. Vraiment, j'ai fait de tout et n'importe quoi, secrétaire intérimaire, enfin, pour essayer de réfléchir en même temps à vers quoi j'allais me diriger. Et puis... je m'étais quand même inscrite, puisque j'y avais droit, à un stage AFDAS pour les intermittents du spectacle. Scène à travailler en bilingue, je me dis tiens, ça peut être marrant. Et j'y suis allée et c'était passionnant. Et j'ai un copain dans le stage qui me dit accompagne-moi à une audition pour un... Il y a un Américain qui veut monter une pièce de John Patrick Shanley. Je dis ouais, je t'accompagne. Mais j'étais détendue. Hein. Et on l'a eu tous les deux.
Vous pensez que le fait d'y être allée détente...
Ah, bien sûr. Oui. Le volontarisme, en fait. Le volontarisme, ça a une certaine... Moi, je vois bien, hein, je vois des jeunes personnes autour de moi qui travaillent dur et qui sont... Je trouve ça super et j'ai de l'admiration pour ça et je l'encourage. Mais il y a un moment, en tout cas me concernant, où ce volontarisme, l'enjeu que j'y mettais était trop fort. Et alors, c'est ça qui est difficile à gérer, parce que d'un autre côté, moi, je ne vais pas aller sur scène avec Alain Françon et dire « Ah non, mais je ne vais pas mettre trop d'enjeux », parce que, vous voyez, après, oui, j'ai mûri. Mais à cet âge-là, vers 28 ans, l'enjeu que j'y mettais était tel que ça me crispait, en fait. Donc, il a fallu mettre un peu de nonchalance là-dedans. Et puis, les choses ont commencé à bouger de façon... intéressante, ouais.
Je voulais savoir si votre nom, Drucker, était un nom qui avait été un avantage ou un inconvénient, ou les deux.
Je dirais les deux. L'avantage que j'ai eu, c'est que d'avoir un oncle comme Michel dans ma famille, avec qui j'étais en lien, qui faisait un métier dans le spectacle, qui recevait des artistes, qui aimait les mettre en valeur et qui nous faisait participer parfois. C'est-à-dire, ma grand-mère et moi, on allait aux répétitions. Quand je venais à Paris, c'était un oncle qui faisait quand même quelque chose d'exceptionnel pour moi et qui était en contact avec tout ce que j'aimais. Les actrices, les acteurs, les chanteuses, les chanteurs. J'étais fascinée par ce qu'il faisait. Et j'avais dans ma famille quelqu'un qui avait été très mauvais dans les études.
Lui, donc.
Lui. Donc, tout le monde, mon grand-père, enfin, de tout ce qu'on m'a raconté, était très inquiet pour lui, de comment il allait se débrouiller dans la vie, et qui avait fini par réussir à faire un métier très, très en lien avec le spectacle. Et je pense que dans un coin de ma tête, ça me faisait penser que beaucoup de choses, que c'était possible. Je crois malheureusement qu'il y a des situations de vie où on se dit, de toute façon, ce ne sera pas possible, parce que je ne connais personne dans ce métier, et que ce n'est pas... Or, moi, dans ma tête, je me disais, ça peut m'être accessible, mais alors pas d'une façon malicieuse. Michel va passer des coups de fil et ça va marcher, je vais devenir une grande artiste. Mais en tout cas, j'avais quand même cette chance-là. Ça alimente sûrement la foi qu'on peut avoir dans l'idée que ça peut marcher. Ça, c'est quand même très précieux. Et puis, l'autre chose, l'inconvénient de ça, c'est que le nom Drucker était célèbre avant même que moi je fasse quoi que ce soit.
et que on peut, les gens de l'extérieur, surtout dans un métier d'image ou jouer des personnages, ça, je crois que ça demande une certaine neutralité quand même, et que les gens puissent projeter quelque chose. Et je trouve que de s'appeler Drucker et d'arriver dans... J'ai senti parfois, ou c'était moi qui étais paranoïaque, j'en sais rien, mais que ça induisait une idée de qui j'étais et de comment je vivais. Et ça, c'était pesant pour moi. Parce que soit j'en faisais trop pour montrer que pas du tout, soit je me sentais toute petite, soit je... Il y avait un endroit où je ne savais pas trop quoi en faire de ce nom. Mais je crois que ça a joué dans ma maladresse et dans le fait de, parfois, de se sentir un peu coupable de... qu'on était quelqu'un d'évidemment plus privilégié que les autres. Et un endroit, oui, je pense que c'était un privilège de pouvoir imaginer que c'était possible.
Léa Drucker est l'invitée de Totémique aujourd'hui, et dans une dizaine de jours, le 17 septembre précisément, elle sera à l'affiche de L'intérêt d'Adam. C'est le deuxième film d'une réalisatrice belge qui s'appelle Laura Vandel. Léa Drucker y joue l'infirmière en chef d'un service pédiatrique. Il y a un gosse qui préfère être dans une chambre d'hôpital plutôt que chez lui, une femme qui panique à l'idée que sa famille soit au courant de son avortement, et puis il y a Adam, 4 ans et demi. Lui est là parce qu'il est malnutri. Sa mère, qui l'élève seule, le nourrit, mais on ne sait pas trop de quoi ses repas sont faits. Dans la scène qui suit, Léa Drucker entre dans la chambre et constate que Rebecca, la mère d'Adam, a jeté à la poubelle le plateau repas du gosse. Extrait de L'intérêt d'Adam avec Anna Maria Bartolomé et Léa Drucker.
Pourquoi est-ce que vous faites ça?
Parce que quand je vous dis qu'il a mal au ventre, vous refusez de me croire.
Mais arrêtez de lui dire que ce qu'on lui donne est mauvais, il aura plus mal au ventre. Ce que vous lui donnez, ça comble pas les besoins d'un enfant de 4 ans. Il a des carences, il a un retard de croissance. Si vous refusez de collaborer, on va être obligé de lui remettre la sonde de gavage, et vous aurez plus droit de visite.
Ça lui fait mal.
C'est bien pour ça qu'on a demandé à madame la juge que vous puissiez revenir 2 fois par jour pour lui donner à manger.
Ah, si tu manges pas, tu vas pas guérir. Et tu risques encore de te casser quelque chose.
Et c'est un film où vous êtes en mouvement tout le temps. Est-ce que ça vous a épuisé?
Ça m'a complètement épuisé. Et puis, à la fois, cet épuisement a complètement servi, le travail et l'aspect même physique du personnage. Et puis,
L'aspect physique, c'est-à-dire que sur votre fatigue?
Sur ma fatigue physique, sur mon visage et puis sur mon corps. Je pense que c'est loin d'être le, comment dire, la même fatigue que pour une infirmière dans la vraie vie. Parce que nous, c'est du cinéma et le soir, on va se coucher. Je veux dire, c'est temporaire. La façon de tourner de Laura Vandel est passionnante, mais très épuisante pour tout le monde, parce que c'est que des plans-séquences.
Il n'y a pas de coupe, on filme dans la longueur.
On filme dans la longueur, les actions, il faut être crédible en tant qu'infirmière dans la gestuelle technique. On avait des contraintes fortes, notamment de tourner qu'un enfant, surtout, si petit, qui faisait que tous les matins, on se disait, je ne sais pas comment on va y arriver. Et on y arrivait parce que le plan séquence, c'était une danse, en fait. Et c'est ça qui est marrant, c'est comme de faire une chorégraphie avec le chef. On finit par faire une sorte de danse avec le chef-op. On avait vraiment l'impression d'y être, quoi. Et de se sentir vivant, en plus dans un métier qui est extrêmement difficile, et d'avoir l'impression de reproduire les choses. Et il y avait des conseillers infirmières et infirmiers qui étaient là pour les gestes techniques, dans cet hôpital de Huy, en Belgique. Et qui était là pour dire ça j'y crois, ça j'y crois pas, ça c'est heureusement. Mais c'est surtout je regardais le rapport à l'enfant, comment elle parle avec les enfants, comment c'est leur passion. Alors ils sont tout petits, mais c'est leur passion. Il y a une sorte de façon de parler, de respect, de en même temps d'être dans l'affection bien sûr, mais aussi
dans la distance
du patient et du soignant. Et ça, c'était très beau à voir.
C'est une femme qui parle toujours calmement. Mmh. Elle aurait mille occasions de s'énerver, d'élever la voix, d'être en colère. Et non, elle reste avec une voix ferme, mais calme.
Oui. En fait, à force de faire des actions techniques, de m'entraîner à faire des actions techniques, à force de respecter cette fonction, je crois qu'il y a des choses qui apparaissent de façon presque naturelle que j'ai pas forcément prévu avant. Il y a une apparente douceur et en effet à l'intérieur parfois quelque chose de plus enflammé parce que c'est une femme qui a des problématiques personnelles aussi et que de temps en temps elle a envie d'exprimer sûrement de l'énervement, des choses, mais elle peut pas, elle essaie de rester dans la fonction. Et cette voix, je crois, est apparue beaucoup dans le lien que j'avais avec le personnage d'Adam, dans la façon de parler aux enfants.
J'aimerais qu'on regarde une scène. Une scène où Rebecca, la mère d'Adam, vient de s'enfermer dans une salle de bain de l'hôpital avec son fils. Elle refuse d'en sortir parce que la juge en charge de son dossier a décidé qu'elle devait être tenue éloignée de son enfant. Un médecin du service s'apprête à appeler la sécurité pour défoncer la porte, mais Lucie intervient. Elle est infirmière en chef et tente de négocier. Lucie, c'est Léa Drucker.
Rebecca, je suis seule, ouvrez. On est en train de tout faire pour que vous puissiez passer la nuit avec Adam. Mon collègue a eu la déléguée, elle lui a garanti qu'elle appellerait la juge. Pour que vous puissiez rester cette nuit avec lui. Tant qu'on n'a pas sa réponse, on peut pas vous laisser dans le service, Rebecca. Gâchez pas tout maintenant. Si vous sortez pas maintenant, ça va être très compliqué pour moi de vous défendre et puis de plaider pour que vous puissiez rester avec lui. Il va bien, Adam ?
Vous savez ce que c'est que d'élever un enfant seul ?
Oui, j'ai élevé ma fille seule.
Dans ce moment-là, moi, je voulais qu'on regarde cette scène ensemble. Pour que vous racontiez un peu votre boulot de comédienne, parce que vous êtes face à une porte, donc vous n'avez pas le regard de quelqu'un. On vous répond, certes, mais vous ne la voyez pas. Est-ce que c'est une scène importante pour vous dans ce film ?
Oui.
Je parle en termes d'expérience de comédienne.
Oui. C'est inconfortable, en fait. Je me souviens que c'était inconfortable et que je ne savais pas très bien... Comment dire, je crois que j'ai été traversée par le sentiment de me sentir un peu maladroite et de pas forcément savoir si je faisais bien. Voilà. Alors à partir de là, je me dis, ben, fais avec ça. Je commence là.
Sers-toi du malaise, quoi.
Ben, je suis mal à l'aise. Je me dis, bon, j'essaie de la convaincre. En même temps, je vais pas tambouriner sur la porte et faire peur à l'enfant. dans le jeu, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Mais je fais ce, en tout cas, à ce moment, dans l'instant, et dans le cadre qui a été défini par Laura Vandel, et dans le, avec le texte, je pense que je me souviens m'être sentie un peu mal, pas si à l'aise que ça, peur de mal faire, cherchant un peu, on a fait beaucoup de prises, hein, donc il y a plein de choses différentes qui ont dû être amenées peu à peu, j'imagine. Mais je crois que je suis partie de là, de ce sentiment d'inconfort, qui me paraissait finalement juste, même si c'est une infirmière expérimentée, d'être dans une situation qui est quand même particulière, et je pense qu'il y a des moments où on ne maîtrise pas tout, même quand on connaît bien son métier. J'imagine que ça vous arrive.
Oui. Bon,
donc ça nous arrive. C'est en ça que je disais que ça m'a pris du temps de comprendre qu'avec la caméra, on pouvait faire plein de choses comme ça, c'est-à-dire d'accepter l'inconfort, d'accepter le malaise, d'accepter le... en se disant ça va peut-être servir la scène. Alors il y a peut-être à la fois moi qui cherche vraiment ce qu'il faut faire, et en même temps, il y a Lucie qui cherche ce qu'il faut faire, quel autre argument elle peut amener, jusqu'où elle a le droit de le faire. Et à la fois, il y a de la fatigue, et à la fois, il y a un manque de confiance en soi. Il y a plein de trucs qui se mélangent entre le personnage et moi.
Et c'est aussi un film où vous êtes filmé de dos, hyper sourd. On vous suit, vous avez la caméra dans le dos.
Oui.
Ça, vous l'avez vécu comment, vous ?
Oh ben, j'aimais bien ça, parce que... ce mouvement, c'était une façon d'amener, de porter la narration, l'histoire du film, vers des chambres, où dans ces chambres, il y a déjà un film possible dans chaque chambre. Et l'idée d'amener aussi le regard, d'être le lien du regard vers les histoires qui se passent dans ces chambres.
Mais quand on est filmé de dos, on joue comme quand on est filmé de face ?
Ah oui, oui. Je réfléchis si l'humeur change. Il y a sûrement un truc qui doit se modifier dans le... Ça me permettait de prendre le temps aussi, des fois, de rentrer dans la scène. De pas penser à des trucs de l'image, et mes cheveux, et mes trucs. Et... Vous savez, des conneries, des fois, qu'on peut mettre un petit peu de temps à... Enfin, qui sont là, hein, c'est toujours comme ça, mais bon, après...
À mettre du temps à évacuer, de se dire...
Évacuer, bon, allez. Mais de toute façon, quand on voit les infirmières dans les hôpitaux, elles sont beaucoup en mouvement. C'est assez rare de les voir statiques.
Et la réplique qui revient tout le temps dans le film, c'est « Je reviens
». Et elle revient.
Et elle reviendra. Revient. Et elle revient. Je disais que ce personnage avait une autorité.
Oui.
Il y a eu un moment où vous avez plus interprété avec cette autorité-là.
Oui.
Je n'ai pas la sensation que vous soyez quelqu'un de très autoritaire dans la vie, mais je peux me planter.
Non, non, pas du tout. Je ne suis pas du tout autoritaire. Mais je pourrais, je sais comment l'être, mais je n'utilise pas ce truc-là. Comment j'ai découvert ça ? Sûrement c'est venu par le théâtre. Sûrement. Et bizarrement, peut-être par des comédies.
Ah oui ?
Bizarrement, parce que oui, en fait, j'ai joué des dames dans des pièces avec Michel Faux, où j'étais en tailleur, des trucs qui n'ont rien à voir avec ces personnages d'autorité que j'ai joués au cinéma. Mais un truc qui m'a donné une certaine... Bon, c'est peut-être un mélange de ça avec... des femmes que j'ai observées à la télévision, des femmes comme des femmes d'autorité, des femmes politiques.
Lesquelles, par exemple?
Ursula von der Leyen, des fois quand je la regarde parler, ou rien à voir, mais Simone Veil. J'ai remarqué un petit peu avec fascination des femmes qui n'ont pas besoin d'élever beaucoup la voix pour et qui ont une expression assez minimaliste dans leur visage pour expliquer quelque chose. Alors, j'ai dû essayer ça. Et j'ai trouvé qu'en effet, on pouvait avoir cette autorité en étant dans une apparence... Il faut qu'il se passe un truc à l'intérieur, mais qu'il faut qu'il y ait une apparence un peu calme, un regard franc et droit, une sorte de truc un peu calme. Bon, après, il y a le décor, le costume qui aide, hein, mais il y a cette espèce de façon d'être, de dire les choses sans élever la voix, et c'est assez cinglant. Je crois que ça marche.
Mais... Je trouve qu'il y a un rôle qui a changé les choses pour ça, moi. C'est le rôle de la psy dans le bureau des légendes.
Ah, mais oui, bien sûr. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai pas pensé à ça tout de suite, mais c'est vrai.
Le bureau des légendes est une série créée par Éric Rochon en 2015. Elle met en scène des espions français de la DGSE, et Léa Drucker est la psy qui les reçoit comme patients. Dans la scène qui suit, elle écoute l'agent Marina Loiseau, Sarah Giraudeau à l'écran, qui vient la consulter pour des crises de panique. Marina Loiseau revient d'une mission en Iran, où elle a évité, de peu, la prison à perpétuité. Extrait du Bureau des légendes, avec un face-à-face
entre Léa Drucker et Sarah Giraudoux.
Ce qui vous est arrivé en Iran?
Qu'est-ce qui m'arrive en Iran?
C'est pas de votre faute.
C'est tout ce que vous avez trouvé pour me rassurer?
Vous avez été manipulée, Marina.
Par qui?
Je ne suis pas habilitée à vous le dire. Ce qui est important pour vous, c'est de savoir que vous avez été victime de gens retors. Et que ces gens, vous ne pouviez pas les soupçonner.
Je vous crois pas.
Dommage.
Je soupçonne tout le monde tout le temps, je suis formée pour ça.
Pas les gens de votre propre camp.
Et ça, c'est Éric Rochon qui m'a peut-être mis aussi sur cette piste-là, sûrement. En répétition, quand on préparait la saison 1 du Bureau des légendes, il m'avait donc confié le rôle du docteur Balmès. On s'est tous retrouvés dans des pièces de répétition avec des grandes. C'était très intimidant. Il y avait Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Florence Loirecaille, Sarah Gilles, tout le monde était là. Je pense que j'étais un petit peu impressionnée, bien sûr. Et alors, je ne sais pas pourquoi j'avais cette idée d'une psy, comme j'en ai connue, un peu maternante. Et alors, Éric Rochon est venu me voir, il m'a dit tout de suite, tu es face à des gens qui ont fait, c'est des polytechniciens, c'est des gens qui ont fait l'armée ou qui sont partis. Le personnage de Mathieu, il a des missions, enfin c'est des... Tu peux pas avoir ce rapport-là, en fait.
Avec tu peux pas les infantiliser.
Bah non. Moi, j'avais envie, bien sûr. Il m'a dit ça une fois et ça a été réglé. Et après, j'ai réfléchi, ok, donc en fait... Et c'est ça qui était génial, d'ailleurs, pour moi, et je pense pour Sarah Giraudoux et pour Florence Loirecaille, c'est d'avoir des personnages de femmes si intelligentes. Parce que ça, elles étaient aussi intelligentes que les hommes. Je suis face à Mathieu Kassovitz... à Malotru, et on est à égalité au niveau de la réflexion, de la stratégie. Donc c'était jubilatoire. Donc j'ai pas du tout fait une psy maternante, finalement. Et je pense que j'ai été intimidée un peu par Mathieu, et je pense que ça m'a aidée aussi. C'est-à-dire que ça m'a obligée à être sur quelque chose d'un peu métallique, quoi. Et ça m'a, en effet, vous avez raison, c'est pas que les personnages... de comédie, mais je veux dire, ça m'a en effet mis sur un terrain que je connaissais pas.
Il est américain et se fait appeler Doc Worth. Escapiste, c'est le titre.
Kidding, but really I'm stressed, so this car get the whipping. I'm whipping, I'm revving my engine, they sending me texts. If I don't reply, then they out of the trip, and I'm copping a ticket, I'm getting some distance, blow me some kisses.
Sometimes I feel uncomfortable, so I I'm busting my teeth, I can't go to the dentist. I'm making decisions with no consequences. Please don't call me shallow, I'm sensitive. Running away with these Benjamins. TSA like, oh, it's him again. Sometimes I feel
Rebecca Manzoni, c'est Totemic sur France Inter.
Parfait, comme une pro. On passe à votre carte blanche ?
Oui. Je vais montrer ma page. Alors, comment ça s'appelle déjà cette nouvelle, poème ? Le vieux bus. Vous connaissez ?
Non, je ne connaissais pas ce texte-là. Je précise que vous avez choisi de lire un texte de l'auteur américain Richard Brautigan.
Alors, est-ce que je mets le casque ? Comment je fais ?
Non, c'est bon.
Alors, j'y vais ?
Ouais, juste pour savoir, vous lisez de où à où ?
Alors, je vais lire de là.
Ouais.
Jusque là. Ok. J'ai compté, ça faisait 2 minutes,
super,
normalement.
Super, parfait.
Je fus content de voir le bus venir. On entrevoit une sorte de bonheur quand le bus qu'on attend approche. C'est bien sûr un petit bonheur d'une forme bien spécifique et insignifiante et qui ne sera jamais le grand truc. J'ai laissé la vieille femme passer avant moi, selon le bon usage courtois, et je suis montée ensuite, lui faisant escorte comme dans les châteaux du Moyen-Âge. J'ai mis mes 15 cents dans l'appareil pour prendre mon billet, comme d'habitude. Pourtant, je n'en avais pas besoin. Je prends toujours un billet. Cela m'occupe les mains pendant que je suis dans le bus. J'ai besoin d'activité. Je me suis assis. Et j'ai parcouru du regard l'intérieur du bus pour voir les passagers. Et il m'a fallu environ 1 minute pour me rendre compte que quelque chose n'allait pas dans ce bus. Et il a fallu aux autres environ le même temps pour se rendre compte que quelque chose n'allait pas du tout. Et ce qui n'allait pas, c'était moi. J'étais jeune. Tous les autres passagers, environ 19 hommes et femmes, avaient 60, 70, 80 ans. Moi seule n'avais pas 30 ans. Ils me regardaient fixement et je les regardais fixement. Nous étions tous gênés et mal à l'aise. Comment cela s'était-il produit ? Pourquoi étions-nous soudain les comédiens de ce destin cruel ? Et pourquoi ne pouvions-nous plus détourner les yeux les uns des autres ? Un homme qui avait environ 78 ans se mit à triturer nerveusement le revers de son pardessus. Une femme qui pouvait avoir 63 ans se mit à lisser ses doigts l'un après l'autre dans un mouchoir blanc. J'avais honte de leur rappeler de façon aussi cruelle et inhabituelle leur jeunesse perdue et les maigres années qu'ils avaient traversées. Pourquoi avions-nous été jetés là, ensemble, comme si nous n'étions qu'une étrange salade servie sur les sièges d'un bon dieu de bus ? Je suis descendue du bus dès que j'ai pu. Tout le monde était bien content de me voir partir et j'étais encore bien plus content qu'eux. Je suis restée là, à regarder le bus, avec son étrange chargement à présent en sécurité, qui s'éloignait dans le voyage du temps jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement.
C'est magnifique, hein ?
J'aime beaucoup Richard Brautigan, qui est donc cet écrivain américain des années... Ça a dû être écrit entre 1960 et 1970. Je crois qu'il habitait à San Francisco. Et qui était un écrivain en marge, qui faisait partie de ce qu'on appelait la contre-culture, je crois, américaine de l'époque. Et j'aime beaucoup parce qu'il est drôle et en même temps c'est très mélancolique.
Pourquoi ce texte-là en particulier, Le vieux bus ?
Ah, j'aime bien l'idée de ce qui cloche. Et tout le monde, sur la façon dont il amène l'idée qu'il y a un truc qui cloche, et puis en fait, ben, c'est moi, c'est lui. Et c'est le rapport de l'âge. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est parce que lui, il est jeune, et eux, ils sont plus âgés. Et puis évidemment, lui, il est content de descendre, ils sont contents qu'il s'en aille. Mais au final, il y a de la tendresse. Et au final, il y a aussi quelque chose de mélancolie sur le temps et de ce que lui sera aussi. J'ai l'impression. Enfin, je sais ce que je me raconte. Ils étaient là ensemble et puis ils les regardent partir. Je sais pas, vous l'entendez comment, vous, le vieux bus ?
Alors, j'ai pas du tout... C'est un texte que je connaissais pas. Moi, c'est pas le titre qui me touche, c'est les détails.
Ouais.
C'est
le monsieur.
C'est le monsieur, c'est la dame qui lisse ses doigts. C'est pas rien d'observer ça, je trouve.
Ouais, bah, faut être très sensible.
Et moi, ce qui m'a touchée, c'est la simplicité, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que raconter tout ça avec des mots quasiment de tous les jours, sans chichi.
Ouais, absolument. Ouais. Ce qui est difficile, je pense. Ça a l'air simple, et puis derrière, il y a une... On sent vraiment qui c'est. L'impression de le connaître un peu intimement.
Check, check, Ça, c'est l'intro du tube que Léa Drucker a choisi pour Totemic, le groupe Public Enemy, le titre Fight the Power, un morceau qui ouvrait le film de Spike Lee, Do the Right Thing. La comédienne Rosie Perez dansait dessus dès le générique, au début du film.
You're getting, knowing what I'm knowing, while the black band's sweating in the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want, gotta give us what we need. Hey, our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power.
On est en 90, ouais. 89. Ah, pardon.
Ah non, mais je sais parce que c'est l'année du bac. Et il y a ce film de Spike Lee qui sort, qui était donc Do the Right Thing. Alors, évidemment, j'ai adoré le film. Et pareil, c'est un souvenir très percutant de cinéma, mais aussi de musique, où ce tube m'avait complètement secoué à cet âge-là, 17 ans, donc, sur la force de la musique comme outil de revendication politique, sur un combat qui n'était pas le mien. Hein, c'était... C'est un morceau qui parle de l'oppression, de
la fierté noire.
De la fierté noire, puis aussi une lutte contre toutes les oppressions sociales et raciales qu'il y avait aux États-Unis. Et le film parle de ça. Mais ça m'avait complètement retourné. Et évidemment, je me suis intéressée au hip-hop, au rap. Et il se trouve que c'était 89 et qu'à Paris, en 89, il se passait plein de choses qui ont commencé là. Et surtout, cette époque 89, le bac, on a vu comme sujet de philo, la révolte peut-elle être un droit? Et je trouvais ça, quand je cherchais un tube, je me suis dit, bon, ben, le bac, c'était ça, c'était Public Enemy.
Et donc après, vous êtes mise à écouter du rap?
Énormément. C'est un concours, enfin c'est un peu des hasards de vie aussi. J'avais un copain depuis l'âge de 13 ans, il faisait du graffiti, il faisait partie du groupe NTM dans la section graffiti. Et c'est Brendan, K1, et alors lui, je lui avais offert un disque quand on était gamin, parce qu'on adorait la musique tous les deux, je lui avais offert un disque de Herbie Hancock. Comment il s'appelait ce disque, le tube, là, Rock It, c'est pas Rock It,
oui, c'est Rock It,
ouais. Rock It, voilà. Je lui avais offert ça, il m'en reparle encore, il m'a dit, tu te souviens quand tu m'as offert ça? Et lui, il venait à la maison, il me faisait écouter les maquettes en cassette de NTM. Et moi, j'y connaissais évidemment rien. Donc, il y a eu une sorte de je me suis trouvée là, à ce moment, à Paris, où il y avait tout ce mouvement qui émergeait. Donc, je suis allée voir des concerts, donc j'ai rencontré des gens qui faisaient du rap. Moi, ça m'a donné une conscience... Vous savez, moi, j'ai grandi à Tours, dans un milieu... mes parents n'étaient pas des grands bourgeois, loin de là, mais enfin, c'était des gens qui travaillaient dans la fonction publique. J'avais une bibliothèque bien remplie à la maison. J'ai toujours eu tout ce que je voulais. J'étais plutôt privilégiée. Puis tout d'un coup, j'entendais des sons et des histoires. Enfin, j'ai pris conscience des inégalités, de ça. Mais c'est venu aussi par la musique, et notamment par cette musique-là, que j'ai toujours aimée. Et Prince aussi, hein. Il y avait Prince aussi, mais c'est encore autre chose.
Vous avez assisté à des concerts de Prince?
Oh, plein. J'en ai même vu un au New Morning en 2010, de 2h du matin à 6h, j'étais une fan.
Vous étiez dans cette salle?
Oui, j'étais dans cette salle, j'ai eu cette chance. Ouais. On est sortis en lévitation à 6h du matin, lui-même est passé par la porte... Prince est sorti par la porte et on était en lévitation. C'était drôle, ça aussi, c'était parce que j'ai vraiment eu ce qu'on appelle une expérience un peu mystique, quoi. Je suis sortie de chez moi à minuit alors que je voulais me coucher. Je suis allée devant le New Morning parce qu'on m'a dit qu'il y avait un concert. J'ai fait la queue pendant 2 heures sous la pluie. Puis après on est rentré, on a vu ce concert. C'était inouï. Il y avait tellement de jubilation à faire de la musique, à mettre en valeur la musique, à mettre en valeur les autres musiciens. Je me suis dit, ah là là, voilà quelqu'un qui... Voilà, le bus, quoi. Ça va être un bon vieux bus. Et malheureusement pas.
la séquence finale, c'est une photo
oui.
que je fais habituellement avec un Polaroid, mais je ne l'ai toujours pas récupérée.
D'accord.
Est-ce que vous m'autorisez à faire une photo déjà ?
Bien sûr. Je suis pas coiffée, pas maquillée, mais c'est pas grave.
De toute façon, je vous la montre.
Oui.
Et vous me dites si je peux la prendre. Voilà.
Ok.
Vous pouvez enlever l'oreillette.
D'accord.
Voilà. Vous voulez montrer le livre ?
Oui.
Ouais. Ok. Je vous la montre. Vous me dites si ça va et on en refait autant que vous voulez.
Très bien. Ça me va.
Vous reconnaissez ?
Oui, oui, très bien.
Ok. Bah, c'est rapide hein, comme validation. Merci beaucoup, Léa Drucker.
Bah, de rien. Merci à vous.
Sur la photo, Léa Drucker a voulu poser avec La vengeance de la pelouse, le recueil de textes de Richard Brautigan, dans lequel figure la nouvelle qu'elle a lue pour Totémique. Léa Drucker est au Théâtre des Bouffes parisiens, notamment avec Catherine Yégel à partir du 24 septembre pour La séparation, et elle est à l'affiche de L'intérêt d'Adam de Laura Brandel le 17 septembre. Stéphane Le Guenec réalise Totémique et c'était avec Titouan Labarre ce matin. Perrine Malinche programme nos invités. Ilinka Negulesco trouve son et documentation. Et JB Audibert assure la programmation musicale. La semaine prochaine, rendez-vous dans un studio, pas de radio, mais d'enregistrement de disques avec Arthur Teboul et le groupe Feu Chatterton.